Moselle Actuelle avec Thierry Georges.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Moselle Actuelle en partenariat avec le conseil départemental de la Moselle. Deux femmes invitées de Moselle Actuelle aujourd'hui. La première est ukrainienne, Nadiya Savchenko, une histoire incroyable. Pilote de chasse, elle a passé 2 ans dans les prisons russes, députée du Parlement ukrainien. Moselle Actuelle l'a accueillie dès sa descente d'avion depuis Kiev, à la veille d'un week-end au cours duquel elle a participé à un salon du livre à Luxembourg, accueilli par l'Association pour la paix et contre la guerre. Nous ferons aussi la connaissance en fin d'émission de Fanny Gonella, nouvelle directrice du FRAC Lorraine, en lien avec l'exposition « Vous me rappelez quelqu'un ».
Moselle Actuelle, avec Thierry Georges.
Nous accueillons dans Moselle Actuelle Nadiya Savchenko, qui est venue passer quelques jours dans la grande région, entre le département de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, le Luxembourg, pour participer à un salon du livre organisé à Luxembourg. Et Nadiya Savchenko, vous êtes venue à l'invitation de l'Association pour la paix contre la guerre, qui est une jeune association installée dans la grande région. Je précise que c'est Natalia Pantaleoni, donc un nom plutôt italien, Natalia, qui va se charger de la traduction. Nadiya Savchenko, quel est le message, s'il y a un message que vous êtes venu délivrer et que vous souhaitez faire passer au cours de ce week-end dans notre grande région transfrontalière?
Я знаходжуся на запрошення в Люксембургі, Франції, на запрошення організації за мир проти війни.
Je suis venue en France par invitation de l'ASBL pour la paix contre la guerre.
ASBL, association, oui, c'est ça.
Association.
Сама організація говорить про те, що дійсно хоче донести до людей, що війна в нас є, в нашому світі.
Je voudrais dire que dans notre pays, il y a la guerre.
Що цьому треба протидіяти і треба її зупиняти всіми силами.
Que il faut la combattre, il faut l'arrêter.
Я приїхала поділитися своїм досвідом пережившого.
Je suis venue raconter pour tout ce que je suis vécu dans cette guerre.
І донести меседж, що тільки спільно ми можемо зупиняти конфлікти у світі.
Et mon message est on peut arrêter la guerre seulement quand on agit tous ensemble.
Alors, il faut bien reconnaître qu'on parle peu de l'Ukraine en France aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'Ukraine au moment de toutes ces manifestations, du Maïdan sur cette place de l'indépendance à Kiev, de cette révolution ukrainienne. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a un petit peu disparu des écrans radars et peut-être pas partout, mais c'est plutôt le cas en France.
Затягнуті війни, звичайно ж, втомлюють і виснажують людей.
Les guerres qui durent très longtemps et épuisent les gens.
Але це не означає, що вони просто так закінчуються.
Mais si on ne parle plus de cette guerre, ça signifie pas qu'elle est finie.
З 14-го року у всьому світі багато говорили про подвиг українського народу.
En 2014, on parlait beaucoup des peuples ukrainiens qui veulent se libérer.
Люди повстали проти своєї влади за демократичний європейський вибір.
Les gens ils sont sortis au Maidan pour la liberté et pour son choix démocratique.
І не побоялися стати на захист своєї батьківщини проти чужого ворога Росії.
Et le peuple ukrainien n'avait pas peur de défendre son pays contre l'agresseur contre la Russie.
На даний момент про Україну стали менше говорити, на жаль, через українську владу.
Pour le moment, je pense on parle moins de l'Ukraine parce que le pouvoir d'Ukraine c'est cause de ça.
Влада зрадила інтереси народу, і ми це відчуваємо всередині України.
Je pense que les gens qui sont au pouvoir en Ukraine, ils font pas le combat pour les intérêts du peuple.
І влада втратила довіру західного суспільства своєю нечесною політикою і небажанням боротися з корупцією.
Le pouvoir il fait pas assez son combat contre la corruption. Il défend pas les libertés, la liberté du peuple.
Але питання загрози війни з Росією не зникає.
Mais la question de la guerre avec la Russie, il disparaît pas.
І тому в Європі, в Франції повинні чути про це питання, про цю проблему, тому що ризик Третьої світової ще не зник.
Et je suis persuadée qu'il faut parler de cette guerre parce que il y a encore le danger que la troisième guerre mondiale pourrait commencer.
Mais pour vous, Nadiya Savchenko, l'Ukraine est encore aujourd'hui, en ce début d'année 2018, un pays en guerre.
На жаль, так.
Oui, c'est comme ça.
І без розвитку.
et la situation ne se développe pas.
Quelle est donc très concrètement la situation, la vie en Ukraine?
Воно продовжується.
La vie, elle continue.
Наперекір всьому.
Contre tout.
Україна живе трохи різно. Є Україна, яка дійсно знаходиться в зоні бойових дій.
Il existe deux Ukraines. Il y a une Ukraine dans la guerre où il y a les combats.
І є Україна, яку, слава Богу, територію якої війна не зачепила.
Il y a les territoires d'Ukraine où il n'y a pas de combats pour le moment.
Але при цьому всі люди України намагаються відчувати одне одного і розуміти, що це наша спільна біда.
Mais tous les Ukrainiens, ils savent que la guerre, c'est leur malheur pour tout le monde.
Україна сьогодні – це та країна, яка розуміє, як допомагати іншому.
Ukraine, aujourd'hui, c'est aussi un pays où ce que les gens comprennent et ils savent comment ils peuvent aider un à l'autre.
І ми відчуваємо також ту допомогу, яку надають, і ту підтримку, яку надають нам.
Et aussi, on ressent toute l'aide et soutien, ce qu'on reçoit de l'Europe, de les autres pays.
З кожним днем Україна стає мудрішою і сильнішою.
Chaque jour, l'Ukraine devient plus fort.
І ми обов'язково знайдемо вихід із цієї ситуації.
Et on va trouver une solution pour sortir de cette situation de la guerre.
Donc vous êtes plutôt positive, finalement. Oui. Votre principal combat aujourd'hui, mais combat politique, c'est un combat contre la corruption dans votre pays?
Моя боротьба як військового – це боротьба з ворогом-агресором країною Росією.
Comme soldat, c'est mon devoir de combattre l'ennemi, ça veut dire combattre la Russie.
А як політика, це якраз таки з внутрішнім ворогом корупції, тому що не подолавши внутрішнього, ми не подолаємо зовнішнього.
І comme politicienne, mon devoir de combattre la corruption parce que c'est un ennemi intérieur et sans convaincre celui-là, on ne peut pas avancer.
Vous êtes clairement en opposition au président Petro Poroshenko.
У нас практично всі знаходяться в опозиції до президента.
Presque tous les politiciens font partie de l'opposition par rapport à Poroshenko.
І par le peuple ukrainien est-il soutenu
Poroshenko? Тобто його не підтримує народ зараз.
Він в першу чергу не підтримав народ, тому в нього немає любові народу.
Premièrement, c'est lui qui n'a pas soutenu son peuple. Alors, il peut pas espérer la réponse.
Alors, je lisais aussi d'ailleurs qu'on parlait de corruption que les organes de lutte contre la corruption eux-mêmes sont menacés en Ukraine.
Так, і тут якби не чітка позиція Заходу, в частності США, то в нас би вже цих органів би не було.
Heureusement qu'il y a le contrôle aussi de la part d'Amérique. Sans ça, il n'est plus à avoir les organes de contrôle sur la corruption. Mm-hmm.
Alors, on bavarde en Lorraine. Enfin, nous enregistrons cette conversation en Lorraine. La Lorraine, c'est le pays de Jeanne d'Arc. Et on vous surnomme la Jeanne d'Arc ukrainienne.
Для мене це честь.
C'est un honneur pour moi.
Тільки історія Жанни Д'Арк все ж таки трагічна.
Mais malheureusement, il a eu une tragique histoire.
Крім прикладу Жанни Д'Арк, я б ще хотіла, наприклад, унаслідувати приклад Шарля де Голля в його розумі і побудові країни.
Mais comme exemple politique, j'aime bien Charles de Gaulle comme il a agi après la Deuxième Guerre mondiale.
Франція має п'яту республіку, тобто 5 разів не боялися люди змінювати систему повністю.
La France est la cinquième république. Ça veut dire les gens, ils n'avaient pas peur 5 fois changer la système politique.
Я того ж самого хочу для України. Я хочу зміни політичної системи і зміни системи в цілому життя людей.
C'est une chose que j'aimerais bien pour l'Ukraine, un changement de système politique.
Vous êtes très populaire en Ukraine. Quand vous circulez dans les rues à Kiev, par exemple, est-ce que les passants vous arrêtent, enfin vous reconnaissent, vous arrêtent, vous délivrent des messages d'encouragement?
Ми вас пізнають, з вами розмовляють.
Не тільки в Києві, по всій Україні практично кожна людина мене впізнає.
Pas seulement à Kiev, c'est dans toutes les villes de l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent.
І в будь-якому аеропорту світу, практично немає такого разу, щоб хоч якась людина мене не впізнала.
Et aussi dans l'aéroport du monde, quand j'arrive, il y a quelques personnes qui me reconnaissent.
Частіше це бувають українці, але дуже часто це бувають і росіяни.
Souvent, c'est les Ukrainiens, mais ça peuvent être aussi les Russes.
І мешканці Європи.
et aussi les habitants d'Europe.
Mais lorsque vous avez été emprisonné, on en dirait un mot, vous avez été condamné à 22 ans de prison hein, et vous avez été libéré en 2016. Et il y a eu des manifestations qui, pour demander, enfin la population, pas juste en Ukraine, à Moscou aussi, j'ai vu des photos à Moscou, s'est mobilisée pour manifester pour votre libération.
22 роки мені дали. Я вдячна всім людям, які допомогли в моєму звільненні, бо самотужки це зробити було неможливо.
Je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont engagé que je reçois la liberté de nouveau parce que toute seule ça serait impossible. J'ai dû avoir 22 ans de prison.
В кожній країні, в яку я приїжджаю, я в першу чергу дякую тим людям, які виходили на акції і підтримували Україну, підтримували мене, підтримують тих людей, які ще знаходяться в неволі.
Dans chaque pays où je viens, je remercie premièrement toutes les personnes qui sont participées à toutes les actions de solidarité, de soutien, ce qui m'a permis de sortir.
В Франції таких людей багато.
Et je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont participé à ces actions.
Quand vous étiez petite fille, vous rêviez d'être pilote de chasse, c'est ça? Alors, vous êtes pilote et c'était devenir pilote, c'était la concrétisation d'un rêve d'enfant, de jeune fille?
Так, я люблю висоту і швидкість, і все це поєднується в небі.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien l'auteur et
l'altitude, oui.
L'altitude et la vitesse et pour être pilote, ça a à voir avec tous les deux.
Donc vous êtes la première femme pilote de chasse en Ukraine. C'était pas si facile, je suppose.
Нас насправді жінок за всю історію України було 10. Просто шлях кожної був дуже важким.
En vérité, il y en avait 10 femmes pilotes dans toute l'histoire d'aviation d'Ukraine. Et chacune, il a eu une histoire difficile.
Якраз таки через те, що в українській армії дуже не вистачає гендерної рівності. Але тепер як політик я це виправляю.
Et comme femme, je peux dire qu'il n'y a pas d'égalité des chances pour les femmes et pour les hommes. Mais maintenant, comme politicienne, j'essaie de changer cette situation.
D'ailleurs, vous avez milité aussi pour l'égalité femmes-hommes au sein de l'armée en Ukraine.
Так, звичайно. Сильна армія повинна включати в себе весь народ, а це і жінки, і чоловіки, і жінки це доказують зараз на війні.
Je suis persuadée qu'une armée qui est forte, elle doit compter parmi ces soldats, comme les hommes et aussi les femmes.
Donc votre avion à vous, Nadia Savchenko, c'est le Sukhoi Su-24, mais vous êtes aussi pilote d'hélicoptère?
Так, насправді у нас в армії був занепад, і не так багато було техніки, на якій можна було літати.
Dans l'armée, certains temps, il y avait une crise, on n'avait pas assez des avions qui seraient en bon état, qu'on pouvait voler.
Тому літають більше вертольоти, ніж самоліти у нас.
І en vérité, on vole plutôt sur les hélicoptères.
Це дві різні машини.
C'est deux machines différentes.
В літаку я дуже сильно люблю швидкість і висоту.
Dans l'avion, j'aime bien l'altitude et la vitesse.
А в вертольоті мені подобається, що можна дуже низько летіти над землею.
Et dans l'hélicoptère, j'aime bien quand on peut voler sur terre très très bas.
І ти бачиш все, що відбувається одного.
Voir tout ce qui se passe.
Одного разу на військових навчаннях ми бачили під вертольотом лося.
Une fois, pendant les jeux militaires, j'ai vu depuis mon hélicoptère un chevreuil.
Він був так близько, що можна було роздивитися його очі, великі-великі від страху.
Il était si près que je pouvais regarder ses yeux.
Est-ce que vous pilotez encore? Parce que je crois que vous avez quitté l'armée au moment où la Crimée a été envahie par la Russie, suite notamment au manque de réaction, à l'absence de réaction lors de cette invasion de la Crimée.
Ну, насправді я не пішла з армії, я просто пішла на фронт.
En vérité, j'ai pas quitté l'armée, je suis allée au front.
Я весь час залишалася військовослужбовцем, всі 2 роки ув'язнення, поки мене не звільнили, до того часу, як мене обрали народним депутатом в парламент.
Je suis restée dans l'armée tout le temps quand j'étais en prison jusqu'à j'étais élue députée au Parlement ukrainien.
Дійсно пішла на фронт через те, що не було наказу прямого, який я повинна була отримати як офіцер захищати свою країну. Не було наказу від командування.
Je suis allée au front parce que moi j'ai pas reçu les commandes pour défendre ma patrie comme il fallait être.
Тому я прийняла це рішення сама.
Et pour ça, j'ai pris cette décision seule.
Зараз я літаю, якщо є така можливість, я літаю з друзями в аероклубах на невеличких літаках і вертольотах.
Maintenant, quand j'ai possibilité, je vole avec les amis dans les clubs, aviaclubs, avec les petits avions.
Але, на жаль, я поки не маю права піднімати в повітря військову техніку.
Pour le moment, j'ai pas le droit monter dans le ciel un avion militaire.
Але сподіваюся, що колись ще закінчу роботу в політиці, повернусь і буду далі служити в авіації.
Mais je pense quand j'arrête ma carrière comme politicien, je retourne et je reprends ma vie de pilote.
Vous souhaitez arrêter votre vous pensez arrêter votre vie politicienne?
Є така велика проблема, що у нас люди думають, що потрапляючи раз в політику, це назавжди. Ça повинно бути назавжди.
Chez nous, les gens pensent quand une fois on est dans le politique, ça doit être pour toujours.
En France aussi, hein.
Насправді, добре виконана робота, тоді коли вона має своє завершення.
En vérité, un travail bien fait, c'est quand il a fait, il est fini.
Тому я хочу добре виконати свою роботу в політиці, так щоб більше в ній працювати було не потрібно.
Pour ça, je pense bien accomplir ma mission politique pour que je peux dire mon travail était bien fait, je peux arrêter.
Тому що наша політика в Україні це не зовсім класична політика, це швидше боротьба за зміну політики, зміну політичної системи.
La politique ukrainienne, c'est pas une politique classique, c'est plutôt les essais les uns des autres partager les postes partager les influences.
Тому коли все буде добре, можна буде зайнятися улюбленою справою.
Quand ça changera et changera la système politique, alors je pourrai faire autre chose.
Mais vous ne comptez pas vous présenter à la prochaine élection présidentielle ukrainienne?
Є, на жаль, просто є така необхідність.
Il y a une nécessité que je le fais ça.
Армія мене навчила одному, що якщо ти цього не зробиш, то хто це зробить за тебе?
En armée, j'ai appris quand c'est pas toi qui le fais, alors c'est qui va le faire?
Тому якщо я хочу мати безпечну країну для своїх дітей в майбутньому, я повинна це зробити.
Alors si je veux vivre dans un pays qui sera sûr pour mes enfants en futur, alors je dois faire tout ce qui est nécessaire pour ça.
Donc la fin de votre vie politique n'est pas pour demain, pas pour tout de suite visiblement.
Та ні, якщо будемо живі, завтра не закінчиться.
Esperons si je vivrai encore.
Ні, але це якраз повинна бути та кар'єра, коли буде скасована президентська посада, її потрібно, скажімо, упередить, скасувати, і можна буде запустити демократію в країні. Це найближчих ще 5 мінімум років.
Je pense qu'il y a une nécessité que l'Ukraine aura un président fort, qu'il pouvait mettre l'ordre dans le pays, et après ça, on pourrait retourner dans le fonctionnement normal des pays avec toutes les normes et règles démocratiques.
Nous évoquions la Crimée. Quel est le souhait, à votre avis, du peuple de Crimée quant à son avenir? Donc, Russie aujourd'hui, mais indépendance ou au sein de ou être vraiment associé à l'Ukraine?
Зі мною зараз з Франції приїхав мій помічник. Він родом з Криму.
Avec moi en France venu mon secrétaire qui est originaire de Krim.
Його мама залишається на окупованій території в Криму.
Sa mère elle est restée habiter en Crimée.
Буквально вчора вона змогла приїхати до Києва до своїх дітей, і я говорила з нею, спілкувалася.
Dernièrement elle est venue à Kiev visiter ses enfants et je pouvais parler avec elle.
Вона дуже хоче повернутися в Україну.
Elle voudrait très fort que le Crimée redevienne ukrainienne.
Таких людей там багато.
Il y a beaucoup de gens qui souhaitent ça.
Тому за них і за їхню свободу треба боротися.
Et pour ces gens et pour leur liberté, je dois combattre.
Suite et fin de la conversation avec Nadia Savchenko dans Moselle Actuelle, une jeune femme de combats aériens, terrestres, combats contre la Russie, combats politiques aussi, accueillie en Lorraine et au Luxembourg à l'invitation de l'Association pour la paix et contre la guerre. Vous combattez aussi d'ailleurs pour la libération de prisonniers ukrainiens, d'ailleurs des prisonniers politiques détenus illégalement en Russie, ils sont nombreux.
Їх зараз 60, 20 з яких сидять ще з 2014 року.
Pour ce moment, ils sont 60 personnes. Il y a 20 personnes qui sont emprisonnées depuis 2014.
Зараз якраз є можливість хорошої політичної ситуації, політичного вікна, для того, щоб можна було звільнити всіх цих людей?
Pour le moment, je trouve situation bonne pour libérer beaucoup de personnes.
Вибор президента в Росії і тиск світової спільноти Заходу може створити ситуацію, коли люди будуть відпущені.
Les élections présidentielles en Russie et la pression des peuples européens, elles peuvent faire une situation où beaucoup de prisonniers peuvent être libérés.
Я намагаюся для цього зробити все і дуже багато спілкуюся про це з західними політиками.
De mon côté, j'essaie de faire tout nécessaire pour les libérer et j'essaie d'avoir des contacts avec les politiciens de l'Europe.
Quelles étaient les circonstances de votre condamnation à 22 ans de prison?
Я потрапила в полон на окупованій території Луганської області.
J'étais prise prisonnière pas loin de Lugansk.
Alors c'est où, Lugansk?
C'est le territoire où il y a les combats. Il y en avait en 2014, il y en a actuellement aussi.
Потім я була викрадена в мішку на голові, в наручниках, в багажнику машини до Росії.
Après ça, ils m'ont amené dans Russie avec un sac sur la tête, avec les mains liées, avec une voiture. On était en route plusieurs heures, je savais pas où ce qu'on m'amène.
Мене тиждень допитували в закритому приміщенні, і ніхто не знав, де я.
Une semaine, j'étais dans une chambre toute obscure, une personne ne savait où je suis, ils m'ont posé tout le temps des questions.
Потім, коли стало відомо медійно про мене, мене перевели до в'язниці, в якій тримали 2 роки.
Après, quand l'information sur moi, elle était connu par les médias, on m'a amené en prison.
Засуджували мене за вбивство російських журналістів, яких я ніколи не вбивала.
On disait que j'ai tué 2 journalistes russes, mais je l'ai jamais tué.
Я є солдатом, а не вбивцею, і ніколи не стріляю в людей без зброї.
Je suis soldat, mais je n'ai jamais tiré dans les gens qui n'ont pas d'armes. Je suis pas meurtrière.
Ми просто захищали свою батьківщину.
J'ai essayé de défendre ma patrie.
Quelles ont été vos conditions de détention pendant 2 ans, puisque vous avez été en prison pendant 2 ans?
Це була звичайна в'язниця, вона ніколи не буває легкою для людини.
C'était en prison, ça peut pas être facile pour personne.
Я 2 роки знаходилася в одиночці, тобто постійно сама.
2 ans, j'étais toujours toute seule.
Мені довелося протестувати проти системи російських судів голодуванням.
J'ai dû mener en grève de faim pour combattre contre la système russe.
Я голодувала 83 дні без їжі і 6 днів без води.
J'ai rien mangé 83 jours et 6 jours j'ai pas bu.
І коли я вже була достатньо виснаженою, в Росії не залишилося іншого виходу, як віддати мене в Україну живою або мертвою.
Alors quand j'étais épuisée, alors la Russie n'avait plus d'autre choix que donner à l'Ukraine vivre ou mort.
Тому я знаю, що потім погодилися на обмін мене на російський солдат.
І comme ça la Russie elle a donné son accord pour m'échanger pour 2 autres officiers russes.
Тому я знаю, що шлях боротьби за кожного політв'язня дуже нелегкий.
І comme ça je sais que le combat pour la liberté de chaque prisonnier il est pas facile.
Всі хлопці, які зараз знаходяться в російських в'язницях, піддавалися тортурам і піддаються досі.
Tous les prisonniers ukrainiens qui sont en Russie maintenant, ils étaient torturés, il y a beaucoup qui sont torturés maintenant aussi.
І боротьба завжди з 2 сторін. Вони чинять спротив із середини, ми повинні боротися за них зовні.
Il y a toujours le combat des deux côtés. Eux, ils font leur combat enfermés dans le prison et nous devons faire notre combat pour leur liberté.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris cette condamnation, lorsque au tribunal, je suppose, on vous a annoncé cette condamnation à 22 ans de prison?
Ничего. Просили 25.
Parce qu'ils avaient demandé 25.
Насправді я це спокійно сприйняла, тому що я давно для себе вирішила, що не буде ніяких 22 років. Я не буду їх сидіти.
Pour moi, j'avais décidé qu'il n'y aura pas les 22, il n'y aura pas 22 ans de prison.
Тобто я або буду вільною, живою, або вільною, мертвою, але все одно вільною.
Que je serai libre, vive ou morte.
Et de fait, vous avez été libéré effectivement quelques mois plus tard. Vous avez une vie incroyable, donc pilote, enfin une vie de combattante, d'action. C'est presque paradoxal d'apprendre que vous avez étudié la couture.
Життя довге, воно вчить багато чого.
La vie est longue, on apprend beaucoup de choses.
В дитинстві я не думала, що в нас колись буде війна, і тому до армії я вчилася звичайним людським професіям, робітничим.
І коли j'étais enfant, quand j'étais jeune, j'ai appris les professions simples, où ce que je pourrais éventuellement gagner mon pain.
Я люблю шити, моделювати собі одяг,
тобто сам собі кутюр'є. J'aime bien coudre et faire les modèles de vêtements.
Ну, просто на це зараз не так багато часу.
Mais malheureusement, j'ai pas le temps maintenant pour ça.
Qu'est-ce qui vous fait peur? On a l'impression que rien ne vous fait peur. Donc même déclencher des grèves de la faim.
У мене немає нічого такого, на що людина реагує звичайним людським страхом.
Je ressens pas cette peur normale où ce que les gens parfois disent j'ai peur.
Напевно, залишається опасіння тільки одного, що можна не встигнути за своє життя виправити ситуацію в Україні так би, якби то хотілося.
Mais j'ai quand même peur que peut-être dans ma vie je n'arriverai pas de faire ce que je pense de faire juste d'améliorer la situation en Ukraine par exemple.
Але для того, щоб все вийшло, щоб досягти своєї мети, якраз і треба нічого не боятися.
Mais si on veut arriver à son but, c'est nécessaire de ne pas avoir peur.
Avez-vous été menacé depuis que vous êtes engagé dans la vie politique?
Звичайно.
Bien sûr.
Політика – це конкуренція, тому проти мене завжди будуть виступати мої конкуренти в політиці.
Dans la politique, c'est une grande concurrence, et alors mes concurrents, ils allons faire les choses contre moi.
Мене це не зупиняє ніколи.
Ça va pas m'arrêter.
Quel est plutôt votre action au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil européen?
На даний час я вже в ній не працюю. У нас змінюються делегати щороку туди.
Cette année, je participe plus à l'Assemblée parlementaire parce que les représentants ils changent chaque année.
Але коли я там знаходилася, то першою задачею, яку я ставила, це виключно політв'язні.
Mais quand je faisais partie de cette commission, les questions je m'occupais, c'était les questions des prisonniers.
Парламентська асамблея має широкі можливості політичних інструментів, які допомогли звільнити мене і можуть допомогти звільнити інших.
Assemblée parlementaire, elle a beaucoup des instruments qui peuvent aider libérer les gens.
Тому задачею було утримати позиції України в тому ключі, щоб їх чув і розумів світ.
Quand je faisais partie de cette commission, c'était important que je garde la représentation ukrainienne et j'aide libérer autres personnes.
Quelle est la prochaine échéance forte pour vous qui vous concerne personnellement en Ukraine, Nadia?
Я сподіваюся, що нам удасться не тільки зупинити війну в Україні, але й уникнути загрози третьої світової війни.
J'espère qu'on pourrait finir la guerre, pas seulement dans l'est de l'Ukraine, mais aussi éviter le danger de la troisième guerre mondiale.
Свого часу Черчилль, англійський політик, зміг передбачити Другу світову війну, але не зміг її зупинити. Іноді політики можуть передбачити загрозу війни, але не знають, як її уникнути.
Parfois les politiciens, ils peuvent reconnaître un danger de guerre, mais ils peuvent pas éviter.
Тому я вірю в те і очікую того, що в Україні вийде зробити, пройти цей шлях.
J'espère que en Ukraine on arrivera
і стати дуже успішною багатою країною в центрі Європи.
Et que l'Ukraine devient un pays prospère au centre de l'Europe.
Merci beaucoup. Дуже дякую. Nadia Savchenko, merci infiniment d'être venue dans Moselle Actuelle. Alors, merci. Bon, la traduction simultanée, c'est un exercice, un véritable exercice. Merci donc, Natalia Pantaleoni, d'avoir. Je dis avec l'accent italien, mais vous êtes ukrainienne. C'est votre nom d'épouse. Donc, merci d'avoir assuré la traduction simultanée des propos de Nadia Savchenko. Et puis, donc, merci à l'association, cette jeune association, l'Association pour la paix contre la guerre, qui est née en 2017 dans la grande région.
Merci, au revoir.
Thank you. avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour.
Javanaise chantée par Madeleine Perroux, extrait de la bande originale du film La forme de l'eau de Guillermo del Toro, 4 Oscars, dont celui de la meilleure musique composée par le français Alexandre Desplat, un deuxième Oscar pour ce compositeur prolifique qui a déjà enregistré une musique de film avec l'Orchestre National de Lorraine à l'Arsenal, celle d'une minute de silence de Florent Emilio Siri. Direction le FRAC à présent, retrouvons sa nouvelle directrice Fanny Gonella. Pardon pour les interférences liées à l'éclairage dans les salles d'exposition du FRAC Lorraine à Metz.
Hélas, avril en vain, vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise.
Direction le FRAC à présent, retrouvons sa nouvelle directrice, Fanny Gonella. Pardon pour les interférences liées à l'éclairage dans les salles d'exposition du FRAC Lorraine à Metz.
Moselle actuelle. Avec Thierry Georges.
Fanny Gonella, vous me rappelez quelqu'un. Non, ça pourrait être une entrée en conversation, hein, vous me rappelez quelqu'un. Mais en fait, vous me rappelez quelqu'un, c'est le titre de l'exposition qu'on peut découvrir au FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, jusqu'au 17 juin prochain. Avant d'évoquer l'exposition, qui est une nouvelle exposition, si on parle de ce qu'il y a de nouveau au FRAC, il y a vous, d'abord, qui êtes dans les nouveautés du FRAC.
C'est un peu aussi d'ailleurs pour ça que ce titre a été choisi, c'est-à-dire que c'est effectivement une phrase qui est souvent prononcée à l'occasion d'une rencontre. Et cette exposition est aussi l'occasion d'une rencontre, en tout cas de me présenter, moi, au public messin.
Et puis
de rencontrer aussi le public, puisque voilà, je viens de déménager à Metz, donc c'est le moment, une occasion de faire connaissance à la fois avec le public et aussi avec la collection qui est là. Et donc il y a certaines œuvres de la collection qui sont présentées dans l'exposition aussi.
Alors vous avez grandi en région parisienne et vous avez fréquenté les musées enfants. Enfin, ça a un peu orienté... Votre parcours professionnel?
Oui, mais pas immédiatement. J'ai non. Pas eu cette idée-là tout de suite. C'est venu un petit peu par hasard, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais les musées, je pense que comme tous les enfants, à partir de 7-8 ans, j'ai trouvé ça ennuyeux au possible.
Oui.
Mais ça ne m'a pas tellement dégoûté que ça, puisque j'ai décidé d'y retourner après.
Et là, vous n'arrivez pas en ligne directe hein, de la région parisienne à Metz. Vous êtes passé par l'Allemagne, et avec un stop assez long d'ailleurs en Allemagne.
Oui, au départ, je suis partie pour 3 mois.
Ah oui.
Et puis c'est devenu 15 ans.
Mais vous aviez déjà appris l'allemand, vous étiez...
Oui, j'avais appris l'allemand en première langue au collège, donc il y a très longtemps.
Qu'est-ce que vous avez fait choisir l'allemand? Enfin, moi, je suis toujours étonné que des personnes qui ne sont pas de la région, et il y en a un petit peu partout, même du sud de la France parfois, qui choisissent l'allemand en première langue et pas, je sais pas, l'anglais ou d'autres langues.
Ben, on n'a pas tellement le choix, en fait.
C'est vrai? Hein,
à mon époque, c'était l'allemand ou l'anglais, donc... Et puis, il se trouve que j'ai des cousins qui sont franco-allemands, et donc je me suis dit, bon, allez, faire allemand. Voilà. Ouais.
Et donc, après l'apprentissage, vous avez eu envie d'aller travailler et vivre en Allemagne?
Oui, j'avais entendu parler de ce programme de l'Office franco-allemand pour la jeunesse par une amie qui m'avait dit, ah oui, je crois que quelqu'un a fait ça, ça a l'air bien. J'ai regardé, j'ai candidaté, et puis j'ai été prise, voilà, tout simplement.
Et votre vécu professionnel en Allemagne est lié, bien sûr, à l'art.
Voilà, oui, c'est-à-dire que effectivement, depuis que je suis partie, et même avant, j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'art, et même de l'art contemporain, on pourrait dire, parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des artistes vivants.
Et vous avez dirigé en Allemagne la Künstlerhaus, donc on va faire, non pas le sous-titrage en radio, ça passe pas bien, mais la traduction.
La Künstlerhaus de Brême, c'est un espace qui a aussi bien des expositions que des ateliers d'artistes, donc c'est essentiellement un lieu de production. Et la signification littérale, ce serait maison de l'artiste. Ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité en français, on pourrait dire, puisque les artistes ne sont pas logés sur place. Mais c'est un lieu qui est dédié aux artistes. Voilà.
Et finalement, Fanny Gonella, en venant à Metz, on peut dire que vous venez vous installer dans le sud.
En quelque sorte, oui. Pour moi, effectivement, c'est le sud, tout est relatif.
Avec des températures qui ne sont pas tout à fait celles du sud, quand je viens vous rencontrer effectivement au FRAC. Alors, vous me rappelez quelqu'un, cette exposition est liée, alors, il y a plusieurs mots, au mimétisme, à la ressemblance, à la réciprocité, à l'empathie. Il y a aussi une galerie de portraits, là on n'est pas dans une salle avec des portraits, mais des portraits aussi.
Oui, il y a en cours des recherches pour préparer l'exposition, je me suis rendu compte qu'en fait, pas mal des artistes qui m'intéressaient avaient fait des portraits, mais pas forcément des portraits au sens classique. Ça peut aussi être des portraits filmés, ça peut être des discussions avec des personnes, mais ça peut aussi être des machines ou des objets qui ressemblent à des êtres humains. Par exemple, la pièce de Nicole Vermeers, qui est dans la salle juste à côté, est composée de hottes aspirantes et de sèches-mains qui sont combinées ensemble et finalement font penser à des figures humaines. Et qui, en plus, d'après leur titre, givers and takers, qui veut dire quelque chose comme preneurs et donneurs, reconstitue une dynamique sociale de prendre et donner. Et donc, il y a comme ça, finalement, des traces d'activités, de personnes, ou des ressemblances, ou des évocations de corps humain qui sont aussi présents dans l'exposition. Donc, c'est des portraits au sens très large.
Et votre première exposition à Metz, au FRAC, ici au FRAC Lorraine, est en fait, si j'ai bien compris, votre dernière exposition à Brême.
Voilà, c'est ça. J'ai pris les œuvres dans mes cartons et j'ai déballé les cartons une fois arrivé. C'était d'un côté pour des raisons de pratique, tout simplement, parce que voilà, l'exposition devait ouvrir assez vite à Metz. Et d'autre part, je trouvais ça intéressant de travailler sur une exposition sur le thème de la ressemblance et de transposer cette exposition ailleurs et de revoir les mêmes œuvres dans un autre contexte. Voilà. Donc il y a l'exposition est un double en fait. Elle a déjà existé avant ailleurs et elle-même contient dans sa structure l'idée de la ressemblance.
En fait. Et le titre alors en Allemagne, vous me rappelez quelqu'un, c'était comment ?
Eh ben c'était complètement autre chose.
Ah, c'était pas ça.
Non, et c'était assez drôle parce que j'ai pris le titre avant de savoir que j'allais partir et le titre c'était comment pourrions-nous nous reconnaître ?
Et ça donne quoi en allemand ?
Wie werden wir uns wiedererkennen ? Cette exposition m'accompagne dans la transition. C'était aussi extrêmement agréable de retravailler avec les mêmes artistes.
Donc c'était ma question. Effectivement, ce sont les mêmes artistes. Ce ne sont pas des artistes plutôt allemands en Allemagne et plutôt français en
Non, non, j'ai pris exactement les mêmes artistes, les mêmes œuvres. Certains artistes ont développé leurs œuvres dans le temps entre les deux expositions. C'est assez rare d'avoir comme ça, on va dire, 6 mois, 1 an pour vraiment continuer. On a vu une première version de l'exposition, on a vu ce que ça donnait. Et puis on peut reprendre, augmenter, transformer. Et l'exposition a été augmentée d'œuvres qui viennent de la collection du FRAC Lorraine. Donc c'était aussi une rencontre entre ce qui a été fait ici jusqu'à présent et des sujets, des formes, des répertoires, des manières d'approcher l'art qui m'accompagnent et me suivent. Et voilà, et qu'est-ce qui se passe quand ces deux pratiques, ces deux approches de l'art se rencontrent ?
Qui sont, alors sans les citer, mais sont plutôt, qui sont les artistes, plutôt de jeunes artistes ?
C'est effectivement plutôt de jeunes artistes. Il y a donc deux, il y a un duo d'artistes français. On a deux artistes suisses qui sont aussi tous les deux dans les années 80. Nicole Vermeers, qui est peut-être la doyenne de l'exposition, mais qui n'est pas très vieille non plus, puisqu'elle est née à Hambourg en 71. Et Anir Kirchner et David Panos, enfin David Panos est né en Grèce, qui sont donc eux. Ont vécu essentiellement en Allemagne, en tout cas d'origine allemande.
Alors, c'est vraiment une vision très élargie du portrait, puisque si on regarde l'œuvre qui est à côté de nous, dans cette salle, qui est entièrement dédiée à cette œuvre de Nicole Vermeers, c'est pas un portrait dans le sens traditionnel. Bon, on identifie du sable, des mégots de cigares, c'est une espèce de grand cendrier. Hein.
C'est tout à fait, c'est un cendrier géant qui est devenu une sculpture.
C'est pas les visiteurs qui écrasent, non, par contre, fume pas en entrant.
Mais l'artiste a fait plusieurs versions de ces tables en sable, comme elle les appelle. Et des sculptures plus petites qu'elle appelle French Addiction, c'est-à-dire les addictions françaises, parce que les Français sont très réputés pour être fumeurs à l'étranger.
Ah bon ? Plus que les Allemands ?
Oui. Oui, c'est la réputation des Français, ils sont fumeurs, donc c'est cendrier.
Fumeur et pas fumiste. Donc c'est...
Ça, je ne sais, c'est autre chose. On ne peut pas mettre les choses ensemble. Mais donc voilà, ça s'appelle French Addiction. Donc ça me faisait aussi rire de faire venir comme ça une grande table qui n'a pas le même titre, mais qui reproduit cette même... activité dont on voit juste les traces ici, mais dans un cendrier qui est tellement grand, en fait, ouais. Que du coup, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est forcément fait pour être utilisé à plusieurs. Et les gens ont déjà été là. Donc quand on arrive là, il y a toute la présence d'autres personnes, d'autres corps, d'autres gestes qui ont ensemble reproduit le même geste qui est celui de fumer qui ne sert à rien, voire même qui pourrait nuire.
Ouais. Êtes-vous fumeuse, vous, Fanny ?
En dilettante.
Donc y a-t-il un mégot à vous ? Non.
Je ne crois pas.
Non. Si on continue à parcourir un petit peu cette exposition, donc vous me rappelez quelqu'un ?
On va avoir une deuxième table, puisque bon, y a quand même des liens entre les espaces. Mais celle-ci a d'autres proportions, va avoir une autre fonction. Elle fait partie de l'œuvre de Jade Forest-Varnier et Vincent Dehomme, qui ont conçu un temple, enfin, ça c'est pareil, c'est comme pour les portraits, hein, c'est au sens large, à Jacen. Jacen, c'est une identité hybride qui est composée des deux prénoms des artistes, Jade et Vincent, et qui est cette créature qui peuple leurs installations, leurs sculptures, dont le visage se retrouve peint sur des assiettes.
Assis sur un fauteuil, type fauteuil d'Emmanuel.
Complètement, le thème de la fécondité et l'érotisme fait partie aussi de leur travail. Donc c'est une référence voulue.
Le temple avec ses colonnes, on peut penser au Parthénon finalement.
En plus petit, avec du plexiglas tout à coup, qui est là comme, autour de ces colonnes, comme une architecture un peu explosée, des coussins au sol. Les artistes ont été très généreux dans ce travail, ils ont mis aussi toutes leurs sources d'inspiration, leur travail préparatoire à disposition du public. Ils ont organisé un défilé avec les étudiants de l'École des Beaux-Arts à Metz, qui a eu lieu le soir du vernissage, et donc ils ont fait des vêtements pour tout le monde, des boucles d'oreilles pour tout le monde. Et
je vois des piles d'assiettes aussi.
Oui, ça c'est pour le 12 avril, donc nous avons un événement, oui, elles vont servir. Nous avons un événement le 12 avril avec les artistes. Il y aura un banquet. Donc il faut s'inscrire parce que voilà, on peut pas. Il faut prévoir un petit peu au niveau des quantités parce qu'un banquet, si on n'a rien à manger, c'est pas drôle.
Nous terminons, Fanny Gonella, la découverte de cette exposition. Vous me rappelez quelqu'un dans la première pièce par laquelle passent les visiteurs. Quand on entre au FRAC, deux portraits. Là, on est vraiment dans le portrait.
Voilà, ce sont deux portraits d'une technique très classique aussi, puisque ce sont des pastels de Nicolas Parti, avec deux visages en cadrage très serré. C'est comme tout début de la Renaissance, on pense à Pirolo et la Francesca. On ne sait pas exactement si c'est un homme ou une femme, non. Parfois. Mmh. Et en fait, c'est des portraits qui ne ressemblent à personne. C'est-à-dire que personne ne ressemble à ça. Personne n'a des yeux en lien avec ce nez, les proportions, c'est vraiment des portraits dessinés. Et c'est ça que je crois que j'aime aussi par rapport à ces portraits, c'est qu'ils ne ressemblent à personne et donc ils peuvent ressembler à tout le monde. Et
est-ce que les réactions des visiteurs messins ressemblent justement aux réactions des visiteurs brémois ?
C'est encore trop tôt pour le dire, mais non, les Français sont beaucoup plus tranchés. Après, c'est un public qui ne me connaît pas encore, mais il y a des gens qui m'ont tout de suite dit pendant le vernissage, ça m'a réconcilié avec l'art contemporain. Alors, que peut-on souhaiter de plus ?
Vous venez d'arriver, Fanny Gonella. Vous connaissiez déjà Emma Lavigne. Vous êtes rencontrée entre directrice de lieux culturels et d'expositions, le Centre Pompidou et le FRAC.
Je n'ai encore rencontré personne parce non, que ça fait trois semaines.
Vous ne connaissiez pas d'avant, enfin sur d'autres manifestations.
Non, effectivement, en Allemagne, je ne l'avais pas rencontrée. Mais c'est vrai que ça fait trois semaines que je suis à Metz et que les trois premières semaines ont été essentiellement dédiées au montage de l'exposition et à l'installation des œuvres. Donc les rendez-vous sont pris, ça va suivre.
Merci beaucoup. Rappelez-nous Fanny Gonella. Donc vous me rappelez quelqu'un, justement. Bah, rappelons les dates, c'est jusqu'au
17 juin avec plusieurs événements. Donc le 12 avril, on a ce banquet et le 15 mars, on a une rencontre entre les trois directrices des trois fracs du Grand Est pour parler de l'exposition.
Donc le frac, c'est une affaire de femmes, enfin bon, Pompidou, etc. Là,
pas
hein,
que.
Pas que. Hein.
Les hommes ont le droit de parler aussi.
Fin de ce numéro de Moselle Actuelle. Merci Nadia Savchenko et Fanny Gonella, Natalia Pantaleoni pour la traduction de l'ukrainien. Moselle Actuelle préparée avec la complicité de Claude Pantaleoni et Leila de l'agence Alembray. Retrouvez Moselle Actuelle en podcast sur rcf.fr. Bonne soirée sur RCF Jéricho Moselle. Dans quelques instants, le journal.